Cette consultation, comme on le dit, c'est une phase qui va ouvrir la phase de contentieux. Donc, les irrégularités matérielles constatées sur les noms et prénoms, on peut saisir la commission électorale indépendante pour les corriger. Maintenant, il y a des personnes certainement qui sont laissées enrôlées, qui ne figurent même pas sur la liste électorale. Donc, ces personnes aussi peuvent contacter la commission électorale indépendante pour pouvoir se faire inscrire. Donc, c'est une phase qui permet à chacun d'aller vérifier effectivement son inscription sur la liste électorale provisoire. Au titre de l'article 12 du Code électoral, des personnes qui ne sont pas habilitées à être sur la liste électorale, des personnes décédées, des personnes aussi intimement inscrites sur la liste électorale, on peut aussi demander leur aviation. Ou des personnes même qui ont perdu la qualité d'électeur et qui sont encore sur la liste électorale. Parce qu'après cette phase, la commission électorale va passer à une seconde phase de la liste électorale définitive.
Vous êtes de la société civile et quel est le message que vous avez à l'endroit de tous ces requérants qui attendent donc le 17 mars pour voir arriver donc cette phase du contentieux?
Nous appelons toutes les électrices et tous les électeurs, toutes les personnes qui se sont enrôlées, toutes les populations d'aller consulter la liste électorale provisoire qui sera affichée le 17 mars prochain. Pour voir effectivement leur présence sur la liste électorale provisoire afin de faciliter l'édition de la liste électorale définie par la commission électorale indépendante.
Drissa Soulama, le coordonnateur national du forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, FOSCA aussi, joint par Junior Cardin. Et puis, les cadres du RHDP s'engagent pour une élection présidentielle apaisée dans le Haut-Saint-Sandra. Ils l'ont signifié le week-end dernier à l'occasion de la rentrée politique du bureau départemental du parti haïtien, Jean-Noël Kwame.
Le coordonnateur principal du RHDP dans le Haut-Sassandra, le ministre Mamadou Touré, a réaffirmé son engagement et celle des populations à tout mettre en œuvre pour une élection présidentielle apaisée dans la région.
Issia fait partie des zones les plus difficiles au monde politique. Les acteurs politiques sont souvent de mauvaise foi. C'est le refus massif des populations au discours de haine, d'exclusion, de violence qui impose la paix et des élections apaisées. Le Haut-Sassandra a pris le pari du développement dans la paix et dans la cohésion sociale. Nous prenons l'engagement de faire en sorte que le Haut-Sassandra ne connaîtra aucune violence en 2025.
Plusieurs nouveaux militants ont fait leur adhésion au cours de cette rentrée politique. Suit Guillaume, cadre du parti à Vavois, premier vice-président du conseil régional, et Fanny Karim, maire de la commune d'Issia, se disent satisfaits.
Aux élections régionales passées, le fait qu'il n'y ait pas eu de violence a été la conséquence du réalisme de nos parents. Ils voient que pour le développement qui est palpable dans la région, il leur faut la paix. Sans paix, il n'y a pas de développement.
Le président de la République demande de décloisonner ethniquement, politiquement le RHDP et faire entre ceux qui ne sont pas RHDP. Aujourd'hui, c'est le RHDP qui est garant de la sécurité nationale et donc du calme qui va prévaloir à ces élections. Le RHDP fera en sorte de ne pas être dans la bagarre. C'est ce qui fait que tout ce que nous disons aux populations est empreinte de cohésion, d'élections apaisées.
Environ 3000 nouveaux militants et adhérents au parti ont été présentés au cours de cette rentrée politique du bureau départemental du RHDP. Jean-Noël Kwame, de retour d'Issia, Radio de la Paix.
Vie des institutions, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance relative au droit unique de sortie sur l'exportation d'anacardes, adopté le lundi 3 mars par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Sur l'intérêt pour la Côte d'Ivoire de se doter d'une telle loi, écoutons l'émissaire du gouvernement, le ministre des Finances et du Budget, Adama Koulibaly.
Il s'agit d'un texte qui vient apporter simplement des clarifications sur en fait les positions tarifaires qui doivent faire l'objet véritablement de taxation. Comme vous savez, quand on parle d'anacarde, il y a deux produits essentiels de la filière qui sont exportés. Il y a les noix brutes de cajou et il y a les amandes. Jusqu'ici, il y avait une forme d'interprétation qui faisait que les droits uniques de sortie étaient appliqués à la fois sur les noix brutes de cajou et sur les amendes. Or, les amendes sont totalement exonérées de DUS, de droit unique de sortie. Donc, le projet de loi qu'on vient de présenter vient clarifier cela pour dire à tout le monde qu'effectivement, dans la politique d'encouragement de l'État en matière de transformation de cajou, les amendes, qui sont des produits issus de la transformation, sont exonérées pour permettre justement d'encourager une plus grande transformation des noix brutes donc en produits finis exportables.
Adama Koulibaly, le ministre des Finances et du Budget. Plus de 42 000 opportunités offertes aux jeunes en quête d'insertion professionnelle à la première édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement. Un rendez-vous qui se tient du 3 au 7 mars à Abidjan-Trècheville. Nelly Dali était lundi au lancement de cette activité. Son compte rendu.
L'enjeu pour le gouvernement était de mettre sur le même espace les recruteurs des entreprises, des cabinets, les établissements en charge des financements de projets et les jeunes demandeurs. Un objectif réussi selon le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré.
Je pense que nous l'avons réussi. Quand je vois l'engouement des jeunes, vous savez qu'il y a un besoin réel. L'idée vraiment, c'est de traiter de façon durable la question donc, de l'insertion des jeunes en mobilisant toutes les opportunités pour offrir une chance donc, à notre jeunesse.
Une opportunité pour ces jeunes venus massivement à ce rendez-vous de l'emploi, du financement et de la formation.
Abdel Bodje, étudiante en fin de formation de caissière spécialisée. Je suis sûre que j'ai les qualités nécessaires pour une bonne entente dans une entreprise. Mes soeurs, mes frères, je les dirais de venir. On ne sait jamais, il faut tenter sa chance et on espère toujours.
Logbo Kwame Salomon Goba, auditeur en droit des contentieux. À chaque fois qu'il y a ce genre d'opportunité, nous devons nous rendre afin de nous-mêmes nous imprégner de ces choses. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir voir de mes propres et je vois que c'est effectif, il n'y a rien à payer, c'est totalement gratuit. Et je pense que ces programmes sont mis en place pour nous les jeunes. Et nous les jeunes, nous devons venir massivement pour tenter nos chances.
Durant 5 jours, recruteurs, formateurs et structures de financement seront à la disposition des jeunes en quête d'insertion professionnelle.
Parlons à présent de la Semaine nationale de sécurité routière. Le bon état mécanique du véhicule, facteur d'une mobilité sûre au cœur de la 26e édition. Et c'est le village de Haoué, dans la sous-préfecture de Brofodoumé, qui a abrité la cérémonie de lancement le lundi 3 mars. On en sait plus avec vous, Junior Cardin.
Le choix porté sur Haoué pour le lancement de cette campagne trouve son explication dans des accidents déjà enregistrés dans la sous-préfecture de Brofodoumé, au dire du sous-préfet Dosso Mohamed Lamine.
Vous vous souvenez encore sans doute du 1er août 2022 où il y a eu un tragique accident qui a fait plus de 20 morts dans notre localité. Et que depuis 2022, les actions du gouvernement ont fait en sorte que nous n'ayons plus à déplorer ce nombre de morts. C'est vrai, il peut y avoir des accidents partout. Mais la situation de Brofodoumé était devenue très très alarmante.
Au nom des 11 villages de la sous-préfecture, le chef d'Haoué, Dr Yate Pakom, a émis quelques souhaits pour une mobilité plus sûre.
Nous avons souhaité bénéficier aussi de cette sécurité routière, notamment par la sensibilisation des usagers de la route, et aussi penser à protéger nos populations en érigeant des dodanes sur la voie principale à l'entrée et à la sortie de chaque village de la sous-préfecture.
Mais les messages sur l'entretien mécanique de véhicules distillés lors de cette rencontre dans la grande salle de réunion de la chefferie d'Haoué, qui a fait le plein de ces 400 places sont destinées à toute la Côte d'Ivoire. Étienne Kouakou, directeur de l'Office de sécurité routière aux airs.
Donc à partir des Brofodoumé, nous lançons cet appel que chaque automobiliste ait le réflexe du contrôle quotidien de son véhicule, mais aussi du contrôle périodique à travers donc, la visite technique obligatoire. Et qu'il suive l'état de son véhicule au quotidien. Ça peut permettre d'éviter des accidents et d'éviter d'être tué sur nos routes.
Relativement aux doléances des chefs, le directeur de l'OZER a promis de saisir les autorités compétentes afin d'ériger des dodanes réglementaires avec surtout des signalisations.
Sur le continent, en Guinée-Bissau, l'opposition réagit à l'annonce de la candidature du président Oumaru Sissoko Embalo pour un second mandat. Une annonce qui n'a rien de surprenant selon le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Ce parti de l'opposition accuse le chef de l'État de manœuvrer pour se maintenir au pouvoir, apprend l'AFP. Passons à la revue des titres de la presse et c'est avec vous Mel Emmanuel. Bonjour.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. La jeunesse est à l'honneur ce matin dans le cadre de la foire de l'emploi et du recrutement qui hier était à sa deuxième journée. Les choses semblent se concrétiser pour les jeunes à s'en référer à le rassemblement qui titre qu'ils étaient plus que mobilisés et d'ajouter que les recruteurs ont été envahis. Fort de ce constat, l'avenir à son tour écrit « Ils ont décroché des boulots, chômeurs et jeunes diplômés disent merci au gouvernement ». Au panier des sujets de ce jour, dans la presse, la présidentielle de 2025. Le feuilleton préélectoral des critiques entre opposition et parti au pouvoir par presse interposée se poursuit ce matin. Et c'est le nouveau réveil, proche du PDCI-RDA, qui ouvre le bal, barrant sa une. Après celle de 2010, 2015, 2020 encore tenue, 2025, la foire aux nouvelles promesses du RHDP. En réaction, le Jour Plus plaide pour la continuité du parti au pouvoir et signe. Pourquoi Alassane Ouattara doit faire son dernier mandat? Cependant, notre voix, se penchant sur la gestion du RHDP, s'interroge. Bilan inattaquable de Ouattara. Et de conclure, merci et au revoir. À l'occasion du mois de jeûne, entamé le samedi 1er mars dernier, les musulmans de Côte d'Ivoire bénéficient du soutien du président de la République. L'expression rapporte la solidarité du président Ouattara aux musulmans, offrant plus de 850 tonnes de vivres. Aussi, le journal fait cas de l'important don du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, au COSIM. Terminons ce tour des titres de nos journaux avec un dossier de Fraternité Matin sur les femmes. En prélude au 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, le quotidien gouvernemental relate l'envol des femmes dans les domaines de la science, de la politique, de la défense et de la sécurité, et bien plus. Bonne lecture à tous.
Merci Mel Emmanuel, on vous retrouve dans l'édition de 8h, toujours pour la revue des titres de la presse. Nous en arrivons à l'invité de la rédaction qui ce jour est Frédéric Conan, président de l'ONG Balater. Il exhorte les Ivoiriens, surtout les politiques, à une élection présidentielle apaisée en octobre prochain et ce à travers son initiative baptisée la Côte d'Ivoire en un. Sur le sujet, Frédéric Conan est interrogé par Mardoché Kouassi.
Monsieur Frédéric Conan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'ONG Balater. Présentez-nous donc votre ONG.
L'ONG Balater est une organisation qui a pour slogan la réconciliation par le football, qui œuvre dans le secteur de la paix, de la recherche, de la cohésion, de la prévention des conflits et qui envisage par ses actions, ses activités à conduire les Ivoiriens vers des élections apaisées. Tout ceci sur la base d'échanges communicationnels entre les différentes parties, en dépit des divergences que chacun puisse rencontrer vis-à-vis de ses relations avec l'autre.
Alors, pourquoi le choix du football pour véhiculer ce message?
Parce que le football est un vecteur de rassemblement, de réconciliation, c'est un vecteur d'union. Vous voyez, quand on a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, les Ivoiriens, dans leur diversité, se sont retrouvés autour de cette équipe nationale, autour du football, et ensemble ont savouré cette victoire. Et nous pensions que le football était le seul secteur dans lequel il n'y a pas d'opposition, où tout le monde se met ensemble pour pouvoir accompagner l'équipe à la victoire. Il est important que cet élément-là serve de point focal pour rechercher la paix et la réconciliation.
Vous avez lancé récemment l'initiative Côte d'Ivoire en un. Alors dites-nous en quoi cette initiative consiste. C'est quoi exactement?
La Côte d'Ivoire en un, c'est le rassemblement ou la rencontre de l'ensemble des organisations de la société civile, des partis politiques et de toutes les composantes de notre société. L'objectif, c'est de permettre à ce que toutes ces structures, dans leur diversité, réalisent que nous n'avons qu'un seul pays et qu'en deçà de nos divergences, nous devons privilégier l'intérêt commun qui est la Côte d'Ivoire tout entière.
Comment donc comptez-vous vous y prendre pour réussir ce rassemblement de toutes les entités autour de la Côte d'Ivoire?
Ça a été déjà fait lors de la rencontre au Palais des Congrès de l'Hôtel d'Ivoire. Nous avons d'autres activités qui consistent à sillonner l'ensemble du territoire par une caravane Balater qui va parler aux Ivoiriens dans toutes leurs composantes, dans toutes leurs contrées, pour amener chacun à réaliser que nous avons un seul pays et que ce seul pays, nous devons le préserver. Et indépendamment de ça, Balater, c'est aussi un organe de médiation, de discussion et autres et tout. Nous pensions que la communication est un des aspects les plus importants pour obtenir un certain nombre de choses et qu'on peut se parler en dépit de nos divergences, essayer d'aller ensemble à des accords sans forcément sortir des gants. Donc, je pense que Balater est là pour mener toutes ces missions-là dans l'objectif de la Côte d'Ivoire.
On imagine que la prochaine présidentielle, vous l'avez en ligne de mire. Quelles sont les activités concrètes que vous avez prévues sur votre agenda pour contribuer à des élections apaisées?
Déjà, il y a une caravane qui va aller sensibiliser l'ensemble des Ivoiriens sur la nécessité d'aller à des élections apaisées. Il y a la réconciliation par le football, ça veut dire qu'il y a aussi des matchs de football qui vont se faire, où l'équipe qui perd doit comprendre qu'on peut gagner un match comme on peut perdre un match et on sort sans forcément s'en prendre à l'arbitre ou s'en prendre à l'équipe adverse. Indépendamment de ça, il y a des actions de médiation que nous menons, il y a des échanges que nous avons avec les politiques.
Au-delà des élections apaisées, quelles sont vos perspectives après octobre 2025?
Avant ces élections dont on parle, l'ONG Balater avait déjà mené le rapprochement entre les acteurs du football lors des élections à la Fédération ivoirienne de football. Je vous dis que Balaté va continuer parce que Balaté, c'est d'abord le jargon ivoirien qui consiste à apaiser les choses et qui doit pouvoir habiter la société de chacun dans sa famille, dans sa maison, dans son entreprise et autres et tout. Au-delà des élections à président, Balaté va toujours continuer de travailler pour maintenir une stabilité dans la paix et autres et tout. D'abord, on va créer les sous Balaté de sorte que chacun comprenne que au-delà de nos divergences, des désaccords, on peut s'asseoir dans un sous Balaté, se parler et aller à la réconciliation, à la paix. C'est un concept qui va habiter les maisons, les familles, les entreprises et toutes les composantes de notre société et de nos activités.
Alors, M. Conan, l'Ivoirien lambda, les hommes politiques, les hommes de médias, tout le monde vous écoute sur Radio de la Paix. Quel est votre message pour ces élections qui arrivent?
Il faut aller à l'apaisement. Il faut qu'on comprenne qu'une élection, c'est un match de football, c'est un jeu. Aujourd'hui, vous convenez avec moi que les Ivoiriens ont peur. Des personnes, des oiseaux de mauvaise aloi prédisent des lendemains désastreuses pour ce pays. Il faut qu'on fasse honte à toutes ces personnes-là. Il faut qu'on rassure par toutes ces actions, toutes ces activités, qu'on rassure les Ivoiriens de ce qu'on ira à des élections apaisées, calmes, et qu'au sortir de ces élections, les adversaires d'hier vont se mettre ensemble pour gouverner notre pays.
Monsieur Frédéric Conan, merci beaucoup. Ah.
C'est moi qui vous remercie.
Aujourd'hui, invité de la rédaction, Frédéric Conan, le président de l'ONG Balater, était avec Mardoché Kouassi. C'est ce qui m'est fait à ce 7h, dont voici le rappel de l'essentiel. Affichage de la liste électorale provisoire le 17 mars. Les Ivoiriens invités à consulter cette liste pour d'éventuelles réclamations. Phase qui ouvrira la période du contentieux expliqué en début de journal par Drissa Soulama, le président du Forum de la Société Civile de l'Afrique de l'Ouest. Et puis ailleurs sur le continent, en Guinée-Bissau, l'opposition dénonce la candidature du président Oumarou Sissoko Embalo et le calendrier électoral. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, 8h.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.